Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est l'heure des oreilles loin du front. Ce soir, on parle écoféminisme et on commence par ça. C'était écoféministe par la fièvre, car ce soir, on parle écoféminisme, on écoute une conférence de Jeanne Burgard-Goutal, philosophe, auteur du livre « Être écoféministe, théorie et pratique » paru en 2020 aux éditions de l'Échappée. Pour se mettre dans l'ambiance, comme dirait Juliette, on démarre avec un peu d'archives sonores d'une action d'un groupe écoféministe des années 80 en Angleterre, que la conférencière cite, celui du camp de Greenham Common. Situé dans le sud de l'Angleterre, ce camp était une base militaire qui stockait des armes nucléaires, car qui dit années 80 dit guerre froide. Bien plus qu'un mouvement de contestation ponctuel, puisque ce camp a en fait duré 19 ans, de 1981 à 2000, ce groupe de femmes a carrément exploré un nouveau mode de vie le plus en accord possible avec les valeurs de l'écoféminisme. Mais il y a quand même eu quelques temps forts, comme par exemple celui de 1983, Reflect the Base, durant laquelle ces femmes ont notamment découpé des trous dans le grillage de la clôture qui entourait le camp. Comme vous pouvez l'imaginer, des centaines d'entre elles ont été arrêtées à l'issue de cette action. Je précise que la traduction est gentiment, mais brillamment, assurée par Amandine.
I mean, if you know, what is this in aid of? Is this to prevent us getting in or you lot getting out?
Il y a eu des moments où on pensait qu'ils allaient nous tirer dessus.
When we first went to cut the fence,
la première fois qu'on est allé couper le grillage, on ne s'imaginait pas ce qui pouvait nous arriver.
When we realized, well, we could do it, we then thought,
lorsqu'on a compris qu'on pouvait le faire tout à coup, c'est toute la question des répercussions en fait qui se pose.
By then it was obvious
à ce moment-là, c'était évident qu'on prenait le risque de se faire arrêter pour vandalisme ou quelque chose comme ça.
And we got to the motorway service station and stopped and
On s'est arrêté sur la station-service de l'autoroute pour boire un thé, manger un bout. Et c'est vraiment un moment précis.
We're going to have to go through with this because they're not going to stop us. You know, they don't know we're coming. They're not here. There's no roadblock. We're going to get to Greenham and cut the fence down.
Parce qu'en fait, ils sont pas là. Ils vont pas nous arrêter. Il y a personne. Ils savent pas qu'on arrive. Il n'y a pas de barrage. Alors on va aller jusqu'à Greenham et on va couper ce foutu grillage.
For peace, there'll be more no war. 35 women campus for peace, breaking the law. There'll be more no war. 35 women campus for peace, breaking the law. The Belvey Monowars, 35 women, campus for peace, breaking the law. The Belvey Monowars. 35 women, campus for peace, breaking the law. The Belvey Monowars.
We won't want your laws, we don't like your cause, we don't fight your wars, gent and Greenham. We don't want your laws, we don't like your cause, we don't fight your wars, gent and Greenham.
35 women, campus for peace, breaking the law. The Belvey Monowars. 35 women, campus for peace, breaking the law. The Belvey Monowars.
We want your crews, we have life to lose. Built this time to choose, gent and Greenham. We don't want your crews, we have life to lose. Built this time to choose, gent and Greenham.
35 women, campus for peace, breaking the law. The Belvey Monowars.
On vient donc d'entendre des témoignages des protagonistes du mouvement de Greenham Common en Angleterre démarré dans les années 80, suivi par des chants issus de la mise en voix de textes écrits par certaines d'entre elles. Ce mouvement est en fait devenu un symbole des luttes écoféministes dont on parle ce soir aux oreilles. On écoute des extraits d'une conférence de Jeanne Burgard-Goutal, philosophe, auteur du livre « Être écoféministe, théorie et pratique » paru en 2020 aux éditions de L'Échappée. Elle était l'invitée du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse qui propose chaque année un cycle de conférences en écho à sa thématique annuelle. Cette année, c'est magie, sorcellerie, et la conférence dont on écoute des extraits est intitulée « Écoféminisme, le retour d'un mouvement contestataire ». Jeanne Burgard-Goutal commence par définir ce que c'est que l'écoféminisme à travers une histoire de ce mouvement. Je précise qu'elle projette une présentation en même temps qu'elle parle et fait donc des références aux images, mais cela ne gêne en rien la compréhension de son propos puisque ce sont des illustrations.
Donc première question, qu'est-ce que l'écoféminisme ? Alors tout d'abord, je voudrais préciser que j'utilise ici le terme écoféminisme au singulier, mais en fait, on pourrait très bien le mettre au pluriel, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup de personnes font, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un courant unifié qui aurait une doctrine, une ligne directrice unique, mais au contraire, en fait, c'est plutôt une galaxie, une nébuleuse, un ensemble de mouvements qui sont très, très diversifiés. À la fois sur le plan théorique, on peut très bien repérer différents sous-courants, différentes branches avec des divergences très nettes, et à la fois sur le plan des pratiques, des enjeux, des modalités d'action, il y a une très, très grande diversité. Donc même si je dirais l'écoféminisme au singulier, garder en tête que, en fait, c'est vraiment très diversifié. Voilà, essayez d'entendre le pluriel dans le singulier que j'utiliserai souvent. Donc, pour essayer de quand même cerner un petit peu les points communs au sein de cette grande nébuleuse, on peut dire que l'écoféminisme, c'est à la fois un mouvement d'activisme politique et un courant d'idées multiformes. Il y a toujours eu cette articulation entre une dimension pratique, politique, d'action directe, et une dimension théorique, intellectuelle, d'analyse. Le contexte de naissance de l'écoféminisme, c'est dans les années 70, donc on se situe après les Trente Glorieuses. Pendant les Trente Glorieuses, il y a eu l'espoir, comme le montre cette publicité des années 50, que Moulinex libère la femme, c'est-à-dire que la technologie, l'électroménager, le progrès, l'accès au marché du travail salarié, émancipe la femme, améliore la condition féminine. Et donc on voit cet espoir dans cette publicité que avec la croissance, l'essor du capitalisme et de la modernité, les femmes puissent être libérées de leur assignation traditionnelle au foyer et à des tâches aliénantes. Seulement, et c'est là qu'apparaîtra l'écoféminisme, dans les années 70, il y a une double désillusion vis-à-vis de cet espoir des Trente Glorieuses. Première désillusion, elle est liée aux premières prises de conscience écologistes dans les années 70. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la croissance, le progrès, la modernisation des modes de vie, finalement, il y a un effet dévastateur sur l'environnement qui commence à apparaître dans les années 70. Donc, les images que vous voyez, c'est la couverture de Printemps silencieux de Rachel Carson, donc une biologiste. C'est un livre de 62 dans lequel elle part du constat qu'on n'entend plus les chants d'oiseaux pour alerter sur l'extinction des espèces, sur la pollution, sur les dégradations de l'environnement. Et les autres images sont issues du rapport du Club de Rome « Halte à la croissance ». Donc, dès les années 70, beaucoup de scientifiques et de personnes qui étudient la question alertent sur les dangers liés à notre modèle économique, à notre modèle de croissance et au système technoscientifique. Donc c'est ça la première désillusion, c'est que finalement, le progrès avec un P majuscule détruit l'environnement. Deuxième désillusion, qui vient plutôt de la sphère féministe, le capitalisme et son essor n'a pas mis fin au patriarcat. L'espoir qu'il émancipe les femmes était en fait une entourloupe ou une illusion. Et en réalité, cet essor du capitalisme conserve le patriarcat et même crée de nouveaux mécanismes du patriarcat, de nouvelles formes d'inégalité. Donc, c'est dans ce contexte-là que vont apparaître les premières mobilisations écoféministes, donc à la fin des années 70, début des années 80. Alors souvent, on considère que le mot écoféministe aurait été inventé par Françoise Daubonne dans un livre de 1974, « Le féminisme ou la mort ». Mais en France, ça n'a pas tellement fonctionné. Et c'est plutôt sur le sol américain et plus largement dans les pays anglo-saxons que l'écoféminisme prendra son essor. Donc ici, vous voyez des images des Women's Pentagon Actions, qui sont des grandes marches de protestation qui ont eu lieu donc en 79 et 80 et qui ont été organisées par le premier collectif qui vraiment a utilisé l'étiquette écoféministe. Donc la façon dont ces collectifs écoféministes sont nés, c'est qu'en fait, ils ont été formés par des femmes qui souvent étaient impliquées déjà dans plusieurs causes. À cette époque-là, il y a vraiment un terreau contestataire très fertile aux États-Unis, avec à la fois la protestation contre la guerre du Vietnam, donc la lutte pacifiste, anti-nucléaire, le mouvement féministe qui est aussi en plein essor, la contre-culture hippie, la renaissance amérindienne, les luttes des Noirs américains pour l'égalité des droits civils, et tout cet ensemble de contestations va en fait converger, et c'est cette convergence-là qui va donner lieu au premier collectif écoféministe. Ce qu'ont voulu faire les créatrices de ces collectifs, c'est d'arrêter de séparer leurs combats et au contraire de chercher à les unifier ou du moins à les articuler dans une sorte de lutte globale. Donc ici, il s'agit d'une marche, d'une mobilisation qui a eu lieu autour du Pentagone, qui a été pris par ces collectifs comme le symbole du système dans lequel nous vivons et de son caractère foncièrement guerrier, violent, militariste, agressif à l'égard de la nature, des femmes, des peuples du Sud et de toutes les catégories et de tous les êtres dominés. Dans ces actions, comme vous voyez, là, il y a des grandes marionnettes. Une des caractéristiques des actions écoféministes à la naissance du mouvement, mais on retrouve ça aujourd'hui, ça a toujours été une forme de côté artistique, de théâtralité, de mise en scène très vivante de la contestation. À peu près à la même époque, en Grande-Bretagne, a eu lieu une autre des grandes mobilisations connues des débuts de l'écoféminisme, qui est le campement antinucléaire No Mix de Greenham Common. Donc c'est un lieu où l'armée anglaise, la Royal Air Force, voulait stocker des missiles nucléaires. Donc on est en pleine guerre froide, opposition entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et il était question donc de stocker des missiles nucléaires sur le sol britannique. Apprenant ça, au début, c'est seulement 36 militantes à la fois féministes, pacifistes, qui convergent vers la base de Greenham Common et qui s'installent. Et ce lieu, en fait, ça a été bien plus qu'une simple mobilisation ponctuelle pour protester en faisant une manif, par exemple. Ça a été l'exploration d'un mode de vie complètement alternatif, puisque, comme vous le voyez dans les dates, en fait, ce campement a duré 19 ans. En tout cas, la dernière femme qui campait là est partie au bout de 19 ans. Donc, autour de ce lieu, il y a eu vraiment une protestation créatrice avec l'expérimentation d'un autre mode de vie mené par des femmes. Donc, tout autour de la base, les femmes avaient décoré les grilles avec des guirlandes, des tissages, des broderies. Elles ont vécu sur place pendant assez longtemps en essayant de vivre d'une façon la plus conforme possible aux idéaux écoféministes, donc sans domination patriarcale et sans prédation de ressources naturelles. Ponctuellement, comme sur l'image que vous voyez ici, elles faisaient appel à tous leurs réseaux militants à travers la Grande-Bretagne, et donc il y a eu des sortes de temps forts de la lutte où des milliers de personnes se réunissaient pour des actions particulièrement spectaculaires. Donc là, par exemple, l'action Embrace the Base, donc de créer une chaîne humaine de plusieurs kilomètres tout autour de la base. Et là on rejoint le thème de l'exposition du muséum, Dancing on the Silos, donc elles avaient réussi à pénétrer à l'intérieur de la base nucléaire et à faire une sorte de danse de sorcière sous la lune pour le 1er janvier à l'intérieur de la base militaire. Ou enfin, le 1er avril 83, donc une opération où elles étaient déguisées en nounours et en peluches. Et là aussi, elles ont pénétré à l'intérieur de la base pour faire une sorte de pique-nique. On a toujours cette confrontation très imagée, très théâtralisée, de un univers militarisé et une imagerie enfantine avec les nounours, en l'occurrence, d'une innocence brisée ou d'une innocence impossible pour les générations futures. En parallèle de ces mobilisations, assez tôt, donc, il y a eu l'apparition des premiers écrits écoféministes. Donc, ici, j'ai mis les couvertures de quelques ouvrages écoféministes des années 80 et début des années 90. Donc, il y a eu très tôt ce tissage entre de l'action, donc, comme vous l'avez vu, des actions directes, des actions de désobéissance civile ou d'actions non violentes directes, avec des analyses théoriques. Très souvent, ça a pris la forme de l'anthologie. Donc là, dans ces livres, deux des trois sont des anthologies. Et à ses débuts, vraiment, l'écoféminisme a voulu prendre une ampleur internationale, devenir une sorte de mouvement d'opposition globale au système capitaliste. Et donc, dans ces anthologies, on trouve vraiment une grande variété de textes venus des quatre coins du monde, et de textes aussi qui ont des formes très variées. Donc, des essais, des poèmes, des témoignages, des sortes de méditations guidées. Il y a eu vraiment un foisonnement avec cette ambition de réussir à regrouper toutes les luttes différentes à travers le monde et sous des formes différentes. Parmi les œuvres de cette époque traduites en français, donc il y a par exemple, et alors en ce moment il y a une vague de traductions, donc bientôt dans les mois qui viennent il y aura d'autres œuvres traduites en français, et donc pour l'instant il y a par exemple Écoféminisme de Maria Miss et Vandana Shiva, ou Reclaim, un recueil de textes écoféministes édité par Émilie Hache, dans lequel on trouve voilà, une grande variété de textes écoféministes des années 80-90, ou encore Révé l'obscur de Starhawk, dont vous avez entendu parler hier pour ceux qui ont suivi la conférence apparemment. Donc voilà pour l'écoféminisme à proprement parler. Mais on ne comprendrait pas le succès et l'ampleur du mouvement sans évoquer d'autres luttes qui ne se revendiquent pas de l'écoféminisme, mais qui ont des affinités avec l'écoféminisme. C'est-à-dire qu'à la même période, donc dans les années 70, 80, 90, dans plein d'endroits du globe ont lieu des luttes environnementales menées par des femmes. Donc comme j'ai indiqué, ces luttes ne se définissent pas avec l'étiquette écoféministe, mais à la fois sur les valeurs, les objectifs politiques, les modalités d'action, la conjonction entre enjeux féministes, enjeux écologistes, on peut repérer plein de passerelles. Vous voyez ici, par exemple, le mouvement Chipko en Inde. Donc, c'est un mouvement mené par des femmes dans des zones rurales du nord de l'Inde pour lutter contre la déforestation des alentours de leur village, exploités à des fins commerciales. Et donc, Chipko, en hindi, ça signifie « enlacé ». Et c'est lié à ce mode d'action qu'elles ont inventé et utilisé, d'enlacer les arbres pour s'opposer vraiment avec leur propre corps aux engins qui venaient couper les arbres. Et c'est une lutte qui a remporté des succès puisqu'il y a eu tout un moratoire sur la coupe des arbres dans plusieurs états du nord de l'Inde. Vous voyez aussi donc, en Bolivie, l'un des nombreux collectifs menés par des femmes autour de l'enjeu de l'extractivisme minier. Donc ici, c'est le RENAMAT, ce qui signifie le Réseau National des Femmes en Défense de la Terre-Mère, où il y a toute une articulation entre des enjeux de lutte contre les violences patriarcales, de lutte contre l'extractivisme minier, de destruction du mode de vie et des structures sociales de communautés en Bolivie. Et donc voilà, et ce sont d'ailleurs des luttes qui ont inspiré les écoféministes se réclamant de l'étiquette écoféministe, ou encore voilà, au Kenya, le mouvement de la ceinture verte fondé par Wangari Maathai, ou encore en Indonésie, le mouvement de Kendeng qui lutte contre l'implantation d'usines de ciment au centre de Java. Donc vous voyez qu'à chaque fois, alors pour le mouvement de la ceinture verte, je n'ai pas précisé, mais un des enjeux centraux, c'est pour lutter contre la désertification, où l'enjeu féministe et l'enjeu écologiste sont reliés par le fait d'apprendre à des femmes à replanter des arbres en échange d'une rémunération qui permet donc à la fois un reboisement, une indépendance financière. Donc comme vous voyez, les mouvements liés à l'écoféminisme se situent toujours à l'interconnexion entre les enjeux écologistes et féministes, malgré la variété de ces enjeux. Voilà, ou encore plus récemment au nord des États-Unis, à Standing Rock, on a vu beaucoup de slogans qui là aussi font écho à l'écoféminisme, donc comme les femmes et l'eau sont sacrées. Voilà, donc ça c'est pour bien essayer de faire comprendre, même si dans les manuels d'histoire, on ne parle pas de l'écoféminisme, enfin en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler dans des manuels d'histoire ou des cours d'histoire, souvent, ce n'est pas du tout comme ça qu'on raconte l'histoire et ce n'est pas les mouvements qui sont connus. Mais pourtant, il y en a beaucoup. Là, j'ai donné que quelques exemples, mais voilà, dans les années 80, on a pu avoir l'impression que le mouvement était d'une ampleur extrêmement prometteuse. En réalité, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et à partir de 1995, il y a un déclin de l'écoféminisme. Alors, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire, il y a un déclin de l'écoféminisme à strictement parler. C'est-à-dire de ce qui, des pensées et des luttes qui se définissent vraiment avec l'étiquette écoféminisme. En revanche, il continue à y avoir beaucoup de luttes menées par des femmes autour d'enjeux environnementaux, en particulier en Amérique du Sud, y compris pendant ces décennies. Donc là, le déclin dont je parle, il concerne l'écoféminisme strictement défini. Donc ce mouvement écoféministe a été taxé de toutes sortes de tares insurmontables. Donc on a déclaré que l'écoféminisme était essentialiste, autrement dit, qui réduisait les femmes à une essence féminine figée et aliénante. On a considéré que l'écoféminisme était irrationnel, puisque souvent il y a eu un certain attrait dans les milieux écoféministes pour le culte de la terre-mère ou différentes pratiques spirituelles. Certains et certaines ont considéré que c'était un mouvement réactionnaire qui aurait pour but caché de faire revenir les femmes à la maison, à des tâches traditionnelles et aliénantes. On a considéré voilà, qu'il était apolitique, inefficace, ou encore on lui a reproché d'être un mouvement qui, sociologiquement, était très blanc. Donc ces attaques sont venues de plein de coins différents, donc notamment de la sphère féministe ou d'autres mouvements politiques, si bien que le mouvement a vraiment connu un déclin énorme. Et quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était en 2012 ou 2013. Et en fait, en France, on n'en entendait plus tellement parler. C'est comme si voilà, le mouvement était mort sous toutes ces attaques. En fait, ce que j'ai remarqué avec surprise depuis 2015, donc au cours de mes recherches, c'est que ce déclin est à nouveau suivi d'une réémergence de l'écoféminisme depuis 2015. Moi, il m'a semblé qu'un tournant, c'était décembre 2015, au moment où la COP21 a eu lieu à Paris, et où du coup, sur le terrain français, il s'est passé beaucoup de changements. Avec donc l'apparition des witch blogs par exemple, ou en 2019, donc la photo avec la pancarte « Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides », c'est une photo prise pendant les marches de la jeunesse pour le climat au printemps 2019. Et pendant ces marches, j'ai eu la surprise de voir une prolifération de pancartes qui portaient des slogans à consonance écoféministe, donc comme celui-ci. 2018-2019, là aussi, essor de collectifs écoféministes, donc comme les pieds de biche ou les bombes atomiques, mobilisés autour d'enjeux donc liés à l'énergie, que ce soit le charbon à Ende Gelände, donc pour pieds de biche, ou le nucléaire à Bure pour les bombes atomiques, donc pour parler de ces deux photos. Et 2020, là, il y a eu carrément une explosion d'événements écoféministes. J'ai mis la couverture de mon livre parce qu'il est sorti en 2020, mais surtout, vous voyez, il y a eu plein de festivals collectifs, événements autour de l'écoféminisme. Et il semblerait que 2021 continue sur cette lancée d'intérêt pour l'écoféminisme. Voilà, donc pour un petit aperçu sur l'histoire du mouvement avec... Vous voyez que ce n'est pas une histoire linéaire qui a à la fois un essor, un déclin, une réémergence. Et voilà, qui sait ce que ça donnera.
Vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel et on vient d'écouter PJ Harvey on Battleship Hill, puisque nous aussi on mène une bataille, celle de l'écoféminisme. On vous diffuse des extraits d'une conférence de Jeanne Burgard-Goutal, philosophe, auteur du livre « Être écoféministe, théorie et pratique » paru en 2020 aux éditions de L'Échappée. Conférence qu'elle a réalisée dans le cadre du cycle de magie-sorcellerie organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Dans la première partie, elle a refait l'histoire de ce mouvement et dans ce second extrait, elle revient sur le pourquoi des liens entre écologie et féminisme, justement. Je précise qu'elle projette une présentation en même temps qu'elle parle et fait donc quelques références aux images, mais cela ne gêne en rien la compréhension de son propos puisque ce sont surtout des illustrations.
Donc, premier point que je voudrais souligner, En fait, l'écoféminisme, c'est pas simplement une juxtaposition entre de l'écologie et du féminisme. C'est-à-dire qu'on peut très bien être écologiste sans être féministe, voire en étant super macho. On peut très bien être féministe sans être écologiste. Et même, on peut être à la fois écolo et féministe sans être écoféministe. C'est-à-dire si on conçoit ça comme deux choses complètement séparées, sans aucun rapport. Puisque ce qui va faire l'ADN de l'écoféminisme proprement dit, c'est l'idée que, donc comme le montre l'image, je ne sais pas si vous voyez l'image, donc que toutes les oppressions sont connectées, donc en particulier celle de la nature et celle des femmes, mais pas seulement. Donc justement, l'écoféminisme, ça ne va pas être simplement juxtaposer écologie et féminisme, mais au contraire, essayer de penser leurs interconnexions, essayer de penser les liens, les relations entre domination des femmes et domination de la nature, mais aussi domination de classe, domination raciale, domination des pays du Nord sur les pays du Sud. Donc en fait, dans cette mesure, le terme écoféminisme, il est même un peu trompeur, parce qu'on a l'impression que ça se limite à faire des liens entre écologie et féminisme. En réalité, à la fois les textes écoféministes et les collectifs écoféministes ont toujours eu une analyse beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, quitte à ce qu'on leur reproche de mélanger tout, comme le disait quelqu'un sur le chat, mais elles ont vraiment essayé de penser les imbrications entre domination sur la nature, domination de sexe, de genre, de race, de classe, domination néocolonialiste, et de s'attaquer précisément au point de jonction, aux interconnexions entre ces différentes formes de domination. Donc ici, je vais quand même plutôt essayer d'expliquer les liens qu'elles font entre domination sur les femmes et domination de la nature, puisque c'est... Un des axes clés quand même, et aussi un des trucs sur lesquels il y a souvent le plus de critiques ou d'incompréhension. Donc je vais me concentrer plutôt là-dessus. Donc la question que je vais essayer de débroussailler, c'est pourquoi il y aurait des liens entre l'écologie et le féminisme, ou entre la domination des femmes et la domination de la nature, ou entre le capitalisme écocide et le patriarcat, pour le dire en d'autres termes, parce que voilà, c'est pas du tout évident de considérer qu'il y aurait des liens. Donc je vais détailler trois types d'arguments des écoféministes qui leur permettent de faire des liens entre écologie et féminisme. Donc le premier type d'arguments, ce sont des arguments factuels, fondés sur des données chiffrées, qui permettent de montrer que les dégradations environnementales ne touchent pas de la même manière et avec la même violence les hommes et les femmes. Donc, autrement dit, il y a des injustices environnementales entre hommes et femmes. Donc ici, bon, c'est écrit petit, je sais pas si vous voyez, mais je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Donc, les femmes sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, les femmes représentent 70% du milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour. Les femmes assurent 60 à 80% de la production agricole dans les pays en développement, mais ne gagnent que 10% du revenu total et possèdent moins de 2% des terres. Elles consacrent 3 fois plus de temps à la collecte de l'eau que les hommes. Et en cas de catastrophe naturelle, leur risque de décès est 14 fois plus élevé que pour les hommes. Donc, ce sont des... Alors, Je ne sais pas exactement comment ces chiffres sont calculés et les chiffres sont toujours problématiques. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une multiplication d'études qui montrent qu'il y a de telles inégalités économiques et sociales entre les femmes dans tous les pays que les dégradations environnementales vont s'ajouter à ces inégalités-là et les renforcer, les creuser, ce qui explique donc qu'il y ait une vulnérabilité particulière des femmes face aux dégradations environnementales, donc qui est liée à leur rôle social, à leur précarité économique, à une vulnérabilité donc sociale, économique, politique supérieure à celle des hommes. Et donc, ça, c'est ce qui explique que les écoféministes vont dire... donc, Karen Warren, par exemple, une philosophe écoféministe australienne, elle écrit « Nature is a feminist issue », donc la nature est un enjeu féministe ou une question féministe, justement donc pour cette question, pour ce constat des injustices environnementales entre hommes et femmes. D'où le slogan « Premières impactées, premières mobilisées », qui est un slogan qu'on trouve chez beaucoup de collectifs écoféministes, puisqu'on remarque que, de fait, l'engagement politique écologiste est très majoritairement féminin et que l'engagement politique des femmes, réciproquement, est très massivement écolo. Et pour expliquer ça, donc, il n'y a pas besoin de supposer que les femmes seraient plus proches de la nature ou plus sensibles aux dégradations environnementales. En fait, il suffit de remarquer ces faits, de remarquer ces chiffres pour comprendre que, étant aux premières lignes des effets des dégradations environnementales, les femmes vont être les premières à en prendre conscience et à y réagir, donc en créant des collectifs ou des associations, en se mobilisant autour de ces enjeux. Le deuxième type d'argument pour relier écologie et féminisme, ce sont des arguments systémiques qui, en fait, sont une sorte d'approfondissement du premier type d'argument. L'idée, c'est de dire, en fait, les inégalités ou les injustices environnementales entre hommes et femmes qu'on peut constater sont simplement le symptôme du fonctionnement de notre système, qui est un système capitaliste patriarcal. Donc ici, je vous ai mis quelques livres parus assez récemment en français ou traduits assez récemment en français qui traitent de cette question du capitalisme patriarcal. Et en fait, même certaines autrices ou certains collectifs ont formé le mot « patriarcapitalisme » en un seul mot pour essayer de souligner que capitalisme et patriarcat ne sont pas simplement deux phénomènes distincts et sans aucun rapport, mais seraient les deux facettes d'un seul et même modèle socio-économique, donc deux facettes indissociables. Alors, pour comprendre cette idée-là, on peut essayer d'analyser comment notre système, donc appelé patriarcapitalisme par beaucoup d'écoféministes, fonctionne. Donc là, j'ai mis une image de l'iceberg du capitalisme patriarcal. Alors, c'est une image qui illustre un livre de Maria Miss, qui est une sociologue écoféministe allemande, qui est un livre de 1986, dans lequel... elle essaye de décrypter le fonctionnement de nos systèmes économiques à la fois aux échelles nationales et à l'échelle globale internationale. Donc, l'analyse de Maria Miss, c'est de dire, et on retrouve ça chez beaucoup d'autres écoféministes en fait, c'est de dire, dans notre système fonctionne à la façon d'une pyramide ou d'un iceberg, et donc comme dans un iceberg, il y a une partie émergée, et une partie immergée. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite ligne qui va faire la frontière entre le haut et le bas de l'iceberg. Donc, la partie émergée de l'iceberg, c'est l'économie visible calculée dans le PIB, donc GNP, c'est PIB en français, qui est celle du capital et du travail salarié. Donc, cette partie émergée de l'iceberg, ça correspond à la façon dont Marx a analysé le fonctionnement du capitalisme. Marx, il a défini le capitalisme comme étant le régime fondé sur l'exploitation du travail salarié, donc wage labor dans le dessin, par le capital. C'est ça la définition marxiste fondamentale du capitalisme, donc exploitation du travail salarié par le capital, donc exploitation notamment du travail ouvrier dans les usines par le capital, les actionnaires, les investisseurs qui vont récupérer les profits générés par les travailleurs. Simplement, ce que vont dire les écoféministes, c'est bah, finalement, Marx a vu seulement la partie émergée de l'iceberg, mais au-dessous, il y a plein d'exploitations camouflées, invisibilisées, qui ne sont pas prises en compte dans les théories économiques, qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du PIB, et qui pourtant forment la base sans laquelle la partie émergée de l'iceberg ne pourrait pas exister, ne pourrait pas fonctionner. Donc c'est tout ce qu'on trouve au-dessous, l'économie invisible, fondée sur du travail, donc « no labor contract », sur du travail informel, du travail pour lequel il n'y a pas de contrat. Donc, elle distingue plusieurs strates. Donc, je traduis les petites étiquettes. Donc, le travail informel, donc le travail au noir, le travail voilà, sans contrat et sans reconnaissance ni protection sociale, d'ailleurs. Le travail de subsistance des petits paysans, donc produisant pour leur propre consommation familiale ou la consommation de la communauté. Donc tout ça, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est absolument pas reconnu dans les calculs économiques. Au-dessous, on voit le travail domestique effectué par les femmes, donc le travail de s'occuper de la maison, s'occuper des repas, s'occuper des enfants, s'occuper des vieux, s'occuper des malades. Donc là aussi, énormément de travail, de temps, d'énergie, qui n'est même pas considéré comme du travail et qui n'est pas rémunéré. Le travail des colonies, donc le travail d'une main-d'œuvre surexploitée, à travers l'esclavage, mais dans l'analyse écoféministe, on est encore dans un système qui fonctionne d'une façon totalement néocoloniale. Il y a certes eu décolonisation sur le papier ou dans les institutions politique, mais en réalité, pour elle, c'est vraiment superficiel. Et économiquement, et même politiquement, en fait, la surexploitation des colonies ou des anciennes colonies continue d'être un des soubassements de la richesse de nos pays et donc du fonctionnement de l'économie internationale. Et enfin, tout en bas, la nature, donc ce qu'elles appellent le travail de la nature, c'est-à-dire toute l'activité de régénération, d'auto-régénération des sols, de l'eau, de l'air, donc de toutes les ressources naturelles, de tous les micro-organismes et de tous les flux de particules qui permettent qu'il y ait une production, qui permettent que, bah, tout simplement qu'il y ait de la vie et des choses qui existent. Et là aussi, comme pour le travail des femmes, elle souligne que c'est généralement pas rémunéré et pas du tout considéré comme un travail. Et l'analyse écoféministe, c'est de dire, ben, en fait, si, sans toute cette surexploitation camouflée, le capitalisme n'aurait pas pu apparaître et il ne pourrait pas exister, il ne pourrait pas se poursuivre. Et c'est ça aussi qui leur permet de soutenir que le capitalisme est fondamentalement patriarcal, qu'il ne pourrait pas y avoir de capitalisme non patriarcale, puisque pour que les hommes, donc elles, par exemple quand elles analysent la transition au capitalisme vers le 17e, 18e siècle, elles montrent que pour que, comme l'a dénoncé Marx, des ouvriers puissent être exploités en usine 12 heures par jour, ben, il faut qu'il y ait une autre exploitation qui se passe, mais que Marx n'a pas vu et pas théorisé, qui est l'exploitation de femmes qui vont s'occuper de préparer leurs repas, laver leurs habits, qui d'ailleurs peuvent être elles-mêmes exploitées à l'usine, mais qui le sont aussi au foyer. Donc le travail domestique et l'exploitation des femmes pour le travail domestique est en fait indispensable au fonctionnement du capitalisme. C'est pour ça qu'elle considère que le capitalisme est foncièrement patriarcal. Et qu'on doit vraiment penser ensemble le capitalisme notamment dans sa dimension écocide, mais plus largement dans sa dimension d'exploitation, que ça soit d'être humain ou non humain, et le patriarcat, la domination sur les femmes. Donc, beaucoup d'historiennes écoféministes se sont intéressées à la naissance de ce système. Donc là, je ne vais pas trop y revenir, parce que je pense que c'est des choses que vous avez vues avec des gens plus spécialistes que moi de la question des sorcières dans les dernières conférences. Mais beaucoup d'historiennes écoféministes se sont intéressées ou se sont interrogées sur la naissance de ce système capitaliste patriarcal et ont montré que les bûchers de sorcières et la chasse aux sorcières auraient été vraiment un des actes clés de la transition au capitalisme. Donc là, je vous ai indiqué les livres de Sylvia Federici, Caliban et la sorcière, Le sexocide des sorcières de Françoise Daubonne, Sorcières, sages-femmes et infirmières de Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Donc ce sont, parmi d'autres, des ouvrages qui vont vraiment faire une relecture de la chasse aux sorcières en montrant que ça n'a pas du tout été le fait de l'église obscurantiste au Moyen-Âge, mais que c'est plus tardif que ça, et qu'on peut considérer qu'un des rôles parmi d'autres de la chasse aux sorcières a été d'être une campagne de terreur dans les campagnes européennes pour à la fois redéfinir les rôles de genre et permettre le transfert du savoir, du pouvoir, de la richesse vers la création d'un système capitaliste. Donc je développe pas, bon, s'il y a des questions je pourrais répondre, mais en tout cas historiquement elles se sont intéressées à cette question-là. Donc je passe au troisième type d'argument pour relier la question de la domination de la nature et de la domination des femmes, qui sont des arguments symboliques. Donc outre les analyses vraiment économiques, matérielles que j'ai indiquées, il y a des analyses plus idéologiques ou symboliques, culturelles, qui ont été menées par les écoféministes, qui montrent qu'il y aurait dans l'imaginaire collectif, au moins dans l'Occident moderne, et peut-être au-delà, une identification symbolique des femmes avec la nature, qui a souvent joué au détriment des femmes et de la nature. Donc, dans les petites images, vous pouvez voir une citation de Baudelaire, donc « La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable », et au-dessous, « Appelons la femme un bel animal sans fourrure, dont la peau est très recherchée ». Alors, je trouve ça vraiment mignon que ce soit Jules Renard qui écrit cette phrase-là. Et bon, là, j'en ai mis deux, mais en fait, on peut vraiment trouver des dizaines et des centaines de phrases, que ce soit dans la littérature, dans la philosophie, dans la théologie, dans les ouvrages de psychologie, d'anthropologie, etc., de toute la tradition de pensée occidentale, on trouve donc énormément d'associations entre les femmes et la nature, donc pour naturaliser les femmes, les associer au corps, à la chair, aux animaux, aux émotions, à la sensibilité. Tout cela opposé à l'intellect, à la rationalité, à la culture qui ont plutôt été mises du côté du masculin. Et cette identification femme-nature, elle marche non seulement dans ce sens-là, donc naturalisation, animalisation des femmes pour les inférioriser, mais elle marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire une féminisation de la nature, avec toute l'image de la terre-mère, dame nature, donc vous voyez dans cette image, donc Love Your Mother, donc Mother Earth. Donc on voit que ça marche vraiment à double sens, naturalisation des femmes, féminisation de la nature. Il y a dans nos inconscients et parfois même dans nos consciences une sorte de nœud très profond, très ancré, qui associe femme et nature. Alors, c'est une question qui m'a beaucoup interrogée au début de mes recherches, d'essayer de comprendre pourquoi, alors que ça me paraissait évident que les hommes étaient tout aussi naturels que les femmes, pourquoi cette association plus particulière entre les femmes et la nature. Et très souvent, on voit que ça va tourner autour de l'analogie entre la fécondité et la fertilité. que la fécondité du ventre des femmes et la fertilité de la terre. Il y a beaucoup de rites païens, par exemple, de l'Antiquité, qui vont mettre ça en scène. Et qui vont, à travers des cultes de la déesse, célébrer les rythmes saisonniers comme un cycle de gestation, grossesse, comme si la nature était grosse des fruits dont elle va accoucher pour nous nourrir. Il y a aussi, souvent a été remarqué, le lien entre les 28 jours du cycle lunaire et le cycle menstruel. Donc voilà, il y a un ensemble de phénomènes qui font que dans la biologie du corps féminin, il est plus difficile de camoufler notre naturalité que dans la biologie du corps masculin. Ce qui ne veut pas dire que le corps masculin soit moins naturel, mais les événements du corps de beaucoup de femmes, donc que ce soit le cycle menstruel, la grossesse, l'allaitement, voilà, des choses que 80% des femmes vivent dans leur vie, vont faire que ça saute aux yeux, c'est beaucoup moins difficile à occulter notre animalité, qui est une animalité universelle. Mais une des obsessions de l'homme occidental, ça a été justement de nier cette animalité. Il y a cette ambition prométhéenne de s'arracher à la nature, être supérieur aux animaux. Et en ce sens, le corps féminin qui peut rappeler notre condition de mammifère peut expliquer ces liens qui ont été faits entre femme et nature pour inférioriser conjointement les deux. Donc cette analogie femme-nature, les écoféministes ne la valident pas, en tout cas pour l'énorme majorité d'entre elles, mais elles l'ont analysée en décryptant beaucoup de textes, donc des textes bibliques, des textes religieux, des textes philosophiques, des ouvrages littéraires, des textes psychologiques, des films, etc., pour montrer que ça serait un des soubassements d'un ensemble de systèmes de valeurs de notre culture qui veut que l'homme s'arrache à cette sphère inférieure représentée par ce sort de paquet femme-nature. Donc ça, c'est le troisième type de lien.
It's a fire, these dreams that pass me by, this salvation I desire, keeps getting me down, 'cause we
it's
Vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel et on vient d'écouter It's a Fire de Portiched, car nous aussi on a du mal à respirer sous nos masques. Ce soir on vous a diffusé des extraits d'une conférence sur l'écoféminisme de Jeanne Burgard-Goutal, philosophe, réalisée dans le cadre du cycle de conférences 2021 du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse intitulé Magie Sorcellerie. Alors à la fin de son intervention, les internautes qui assistaient à la conférence pouvaient échanger avec elle et lui poser quelques questions, dont certaines que nous aurions sans doute pu poser, comme par exemple celle-ci de son expérience de terrain en tant que philosophe.
Alors au début, effectivement, ma recherche, c'était purement théorique. Donc voilà, moi je suis prof de philo au lycée. J'avais commencé une thèse de philo en parallèle de l'enseignement pour creuser ce sujet qui m'intéressait. Et j'ai passé plusieurs années le nez dans les livres. La plupart des livres, ils sont pas traduits en français, mais en anglais, il y a une énorme bibliographie, en fait. Donc, j'ai lu, ça m'a fait complètement rêver. Et en fait, au bout de, je sais pas, au moins 3 ou 4 ans de recherche livresque, je me suis rendu compte, enfin, je me rendais déjà compte que je pouvais pas faire de la recherche que théorique sur un sujet aussi contemporain, aussi politique, et d'un mouvement qui vise pas que la réflexion, mais la transformation sociale. Mais je trouvais pas de personnes ou de groupes ou de terrains possibles concrètement. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai quand même fini par avoir l'idée d'aller sur place, ce qui est effectivement assez rare en philo. Dans mon livre aussi, en dehors de ces expériences en Inde, je parle aussi de terrains ou de rencontres que j'ai faites en France, de femmes ou de jeunes filles qui se disent écoféministes et qui ont des manières très différentes de pratiquer leur écoféminisme. Donc ça va d'une manière très radicale, d'une femme dont je parle pas mal dans mon livre, qui vit dans les Cévennes, en semi-autonomie, dans la forêt, dans des yourtes qu'elle a construites elle-même, et qui cherche vraiment à avoir un mode de vie radicalement décroissant, à se mettre complètement, à retirer toute complicité au système, ce qui du coup suppose un mode de vie totalement alternatif, très marginal. Mais j'ai rencontré aussi des jeunes filles et des femmes qui pratiquent leur écoféminisme d'une façon plus intégrée à la vie quotidienne ordinaire et même urbaine, à travers, en essayant de voir comment, dans leur quotidien, leur mode de vie, à la fois dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans les choix qu'elles font, dans leur travail en tant que consommatrice ou dans leur famille, etc., peuvent écoféminiser leur existence. Et voilà, et c'est vrai que quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est de pas dire ça c'est des vrais écoféministes, ça c'est pas des vrais écoféministes, de pas essayer de trier ce qui serait bien ou pas bien, mais plutôt d'essayer de faire comprendre la diversité du mouvement et la multitude de formes que ça peut prendre.
Voilà, on vous laisse découvrir l'intégralité de la conférence qui est disponible sur la chaîne YouTube du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, comme les autres du cycle. Et puisqu'on parlait d'expérience à l'instant, on vous propose pour finir d'écouter des extraits d'un reportage sur la mobilisation féministe écologiste autour de la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. En septembre 2019 avait lieu un week-end féministe et anti-nucléaire, et Radio Parleur, le média indépendant qui est spécialisé dans la couverture des luttes sociales et des mouvements sociaux, y est.
Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières.
Alors moi, je suis passée pour la première fois de ma vie dans la Meuse cet été. Et j'ai trouvé les personnes qui militaient ici assez touchantes. Et quand on m'a parlé de ce week-end qui croisait les questions de nucléaire et de féminisme sur un même événement, j'ai trouvé ça chouette et je me suis dit, bon, bah tiens, en septembre, je sais que j'aurai du temps, je me débrouille pour remonter. Mm-hmm. Et pour recroiser des copines aussi que j'avais rencontrées cet été.
Et du coup, c'est un week-end non mixte. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est important qu'on fasse des luttes en non mixité un peu ou...
C'est une évidence. Hein. Bah, l'espace social, c'est-à-dire bah, les situations de la vie de tous les jours, elles sont traversées par des rapports de pouvoir, par des... par des jeux de domination, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont plus de capital que d'autres. Donc le capital, ça peut être soit la thune, ça peut être soit le réseau, ça peut être le pouvoir au boulot, ça peut être la visibilité face à un journal. Et du coup, des moments où on recrée des espaces, où on se choisit entre nous, ça permet de questionner la normalité, ce qui se passe d'habitude, ce qu'on appelle les jeux de pouvoir. Donc oui, moi je trouve ça chouette. Après, je trouve que ça doit pas se limiter à des questions de genre. C'est-à-dire on peut créer des espaces en non-mixité sur plein d'autres questions, sur plein de discriminations, comme la race, comme la classe, comme l'âge aussi. Donc je sais que ça inquiète beaucoup en France, ce que les médias appellent la non-mixité. Mais moi, je trouve que c'est hyper important que des espaces-là puissent avoir lieu. Et j'ai pas l'impression que ça vient mettre en péril les démocraties ou ce genre de choses. Je trouve ça vraiment hyper important qu'on expérimente autour de ces espaces-là pour questionner ce qu'on questionne pas en temps normal parce que on n'a pas les lieux, on n'a pas les outils. Donc voilà, là on est sur l'atelier masque, je crois qu'on doit être une bonne trentaine. Et c'est cool parce qu'il y a plein de jolis matériaux.
On prend juste un petit bout.
Tu prends un petit bout de notre main droite là.
Alors en ce moment j'ai un ciseau tenu par ma main droite qui découpe de la toile de tente. Donc l'idée ça va être de découper des lanières de tissu pour faire des masques pour les copines qui ce matin n'auront pas le temps de confectionner leur propre masque. Pourquoi faire des masques ? Être déguisé, c'est chouette. C'est que dans un contexte de répression policière et de fichage qui font qu'on est tous et toutes identifiables, c'est important, c'est un enjeu dans les luttes au vu de ces contextes-là. Donc concrètement, ce ne sera pas du masque Jean-Paul Gaultier ou Armani, ce sera plutôt du masque simple mais efficace.
Bah, c'est genre apprendre à encaisser des coups aussi.
Ouais, et aussi apprendre à pas avoir peur de donner des coups. En mode, en fait, t'as pas peur de taper fort, t'as pas peur de faire mal.
Et hésite pas ici, regarde, tu fais. Ouais, ressors, et puis t'avances, t'es en mode avancer sur elle.
D'accord, j'avance sur elle.
Ouais.
Ouais, c'est mieux. Et plus d'énergie dans la voix aussi. Léchissez les jambes, ouais, c'est pas mal. Franchement. Stop ! Et je reste en posture à la fin. Voilà. Et je respire bien et vous dites moins fort, vous osez. Et puis c'est vraiment l'idée. Je suis pas un bloc, hein. Elles m'ont poussé, j'ai accepté. Hop. Mais tout ce que je veux, c'est m'enraciner. Je suis juste bien dans mon corps, comme ça, malgré le fait qu'on me pousse.
Venga la noche, venga la noche, quiero sole metano. Venga la noche, venga la noche, faire tomber in tu lei.
Et la plante
de ma vigno.
Alors je la connais plus.
C'est
quoi ça?
La vigno,
mi.
Si, c'est ça.
C'est des bâtons pita.
Blanc.
On doit faire 400.
Et là, il y en a.
200.
91 plus.
Un peu moins de 200.
Oui, il y en a un peu moins de 200.
On a fait la moitié.
Et on les pèse, après on fait des boules, après on les laisse lever et après on va devoir les réaplatir. Allez, t'as.
C'est qu'un combo de boulangerie.
Personne dans la cour, sinon.
Non,
on peut
pas faire plus. Voilà, faut choisir.
Il y avait. Enfin, en fait, ouais, je pense que le premier truc au début c'était bon, faut qu'on fasse quelque chose dans le coin. Et avant que ce soit sous forme de camp avec des ateliers, etc., l'idée c'était ouais, on fait une marche quoi. On va essayer de se rapprocher de l'endroit avec des pratiques nouvelles parce qu'en fait on n'a jamais fait ça. Comment on pense l'inclusivité? Comment faire venir des gens ici marcher dans une zone réprimée voilà, en faisant en sorte que les gens se sentent safe, que ce soit pas un traumatisme, que ce soit agréable, que ce soit joyeux, que voilà, que se dire bah en fait on a le droit quoi de marcher à côté de ce truc dégueulasse parce que bon, ils ont pas tout acheté encore.
Non mais le soin, bien quoi, enfin le temps qu'elles ont dû, enfin l'énergie qui est dedans, les petits feuillets qui nous expliquent même sur le chemin qu'est-ce qu'on voit. Les enjeux, je sais pas, je trouvais ça oui assez quand même. J'ai pas l'impression d'avoir été non plus surpréparée à quelque chose. On nous a juste un peu mis en garde et donné les petits outils quoi.
Ouais, mais pour moi c'est quand même un dispositif plus que d'habitude sur d'autres trucs où c'est beaucoup plus à l'arrache, etc. Ouais. Et là t'avais quand même, il y a vraiment eu du temps pour les questions, les horaires, pour qu'on ait même le midi, on ait le temps de se reposer, de repenser. Est-ce que je veux vraiment, enfin je trouve ça a vraiment bien été pensé pour que chacun puisse se dire si j'y vais c'est parce que j'ai envie d'y aller. Et je pense que ça rend vraiment les choses accessibles pour des personnes qui veulent venir et qui ont peur de la répression.
On a dit que c'était festif, je l'ai klaxonné et tout, mais je sais même où il klaxonne.
Sur le volant, sur le volant, en plein milieu. Sur les bords là.
Ouais.
Allez, le trajet en voiture se fait en convoi entre Montier-sur-Saulx et un champ situé entre Guillaumet et Cirefontaine en Ornois. Il durera environ 30 minutes.
Alors, on va
il est
34.
Parce qu'on va aller doucement aussi. Pour le retour, donc nous emprunterons la même route. Donc la marche se fera aller et retour entre le champ parking. Et la lisière du bois de Glandenois, en mignon. Suivant un chemin de randonnée, puis en passant par les sous-bois. Oh. Elle durera environ 2h à 2h30 sur un rythme tranquille avec une côte en début de parcours.
Waouh!
C'est à peu près ce qu'on savait, on ne savait pas que c'était en lisière du bois de Glandenois. Oui, pour vous accompagner, dans cette même brochure, vous trouverez des récits et plans mettant en lumière la présence violente de l'industrie du nucléaire sur ce bout de territoire.
Ces installations sont d'ailleurs fortement incitées. Au salon du nucléaire du Bourget en Ile-de-France, on présente une carte de Meuse et de Haute-Marne centrée sur Bure qui se trouve au milieu d'une cible. Le titre de la carte est évocateur, la Meuse, Haute-Marne, un pôle de compétences nucléaires. Mon Dieu, quelle angoisse!
Génial!
Concrètement, nous trouvons à Voie-Vacon une plateforme de stockage de pièces pour centrale, à Soulaine, un site de stockage de déchets à vie courte, à Oudelincourt, les archives d'Areva, et donc un projet de laverie de vêtements du nucléaire à Suzennecourt, à côté de Joinville. Ces projets peuvent être en partie financés par le groupement d'intérêt public. Le CIGEO serait-il donc un cheval de Troie? Une fois ce projet accepté, faudra-t-il accepter tous les autres? La Meuse et la Haute-Marne ont-elles vocation à devenir une zone dédiée à l'industrie nucléaire? Et nous allons vers Cirefontaine en eau.
Ah oui, on y est presque.
Yes!
Là, on voit bien!
Oh, waouh!
On va prendre son
bien. Ouais. Wouh! Yes!
Par association
d'idées. Donc là on est en train d'avancer, on vient de partir. Il y a le chat bleu qui est au premier rang.
Tout le monde est déguisé, masqué, il y a plein de couleurs, plein de tissus. C'est super, super joli à voir. Il y a une petite banderole avec marqué « Vous n'enfouirez pas nos colères ». Et voilà, et les gens dansent un peu.
Il y a un planeur quand même qui tourne autour. Et en fait, très surprenant. Et trois hélicos.
Et on va démarrer.
Et on va démarrer.
Nous sommes tous des bombes atomiques. On va exploser notre société. Et nous sommes tous des bombes atomiques. On va exploser notre société.
Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois du comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit plonger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.
Guerre, déterre et anti-nucléaire. Déterre et anti-nucléaire.
Les sorcières vont te cramer. On va au bûcher. Les sorcières vont te cramer.
Piquez, piquez, les cachots à la tourée. Les piquez, piquez, les cachots à la tourée.
trucs, on est descendu de voiture. Qu'est-ce qu'on a fait?
Eh ben, on a commencé on s'est rassemblés, puis on a commencé une marche à travers champs. Et en fait, je sais pas exactement où on va, mais je crois qu'on va dominer un peu en vue. Peut-être qu'on verra genre le site de là où il y a des travaux qui vont commencer, enfin qui ont commencé et tout ça. Et voilà, entre-temps, on a rencontré deux camions, mais je ne sais pas de quelle fraction de la gendarmerie ou de la police, je suis trop ignorante. Mais voilà, ils sont partis. Et donc, on continue notre petit cheminement. Enfin, je me sens bien, ça donne plein d'énergie. Il se passe plein de trucs trop marrants qui donnent le sourire et tout, qui donnent de l'énergie, même si, en fait, ça pourrait être pas facile ce qu'on fait. Enfin, moi, ça, je pourrais me sentir mal à l'aise ou je pourrais trouver ça pas facile. Voilà. Alors là, on est un peu en haut des collines. D'un côté, il y a une forêt assez basse et de l'autre côté, il y a des champs assez caillouteux. Enfin non, très caillouteux. Voilà, qui sont pas en culture en ce moment. Et en fait, là-bas, on voit, je pense, ce qui est le site, le futur site d'enfouissement des déchets. Enfin, et de recherche et ensuite d'enfouissement des déchets. Et voilà, moi je l'avais jamais vu, donc je découvre.
Et bah, tout le monde est en train de danser et je crois qu'on prépare un feu géant avec le chat qu'on a porté en effigie tout le long. Et c'est plein de couleurs et tout, c'est super beau.
Alors en fait, le tout début, c'est une discussion avec 5-6 personnes qui s'intéressent vachement à l'écoféminisme, qui lisent sur l'écoféminisme, qui imaginent sur l'écoféminisme. Et en fait, on avait marre peut-être juste de penser ce truc-là, on avait juste envie de voir ce que ça pouvait donner. Et voilà, on s'est dit, mais en fait, on va penser à un moment, une action, un rassemblement autour de ces trucs-là et voir ce qui en émerge, quoi.
Et le choix de la non-mixité, ça a été un peu à la fois une évidence et à la fois un process, je dirais. Il y avait un peu un constat collectif d'épuisement des luttes avec des mecs cis, en fait. Un peu ce truc de vouloir militer dans une dynamique qui soit pas oppressive, dans une dynamique où on puisse se sentir forte, où on puisse se réapproprier les tâches qu'on a envie, les dynamiques qu'on a envie. Et ça a fait l'objet, évidemment, de plein de discussions, mais ça très vite, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, a été une évidence pour tous que ça serait sans mec 6.
L'énergie globale de cette manif, elle était très différente de plein de manifs en mixité. Et pour moi, elle fait hyper sens, parce que je me suis toujours dit que c'était avec toute notre créativité qu'on allait pouvoir faire basculer un peu les choses. Donc le fait qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait des chants, des danses, que ça soit vivant, que ça soit joyeux, que ça soit tout ça, c'était très beau. Et pour moi, ça fait vraiment sens. Et amener ça, j'imagine, dans un futur plus ou moins proche, dans le béton, enfin dans d'autres contextes, je pense que vraiment que ça a une puissance de fou, quoi. Et après, à titre personnel et à titre du clown, oui, mais moi, en fait, j'ai toujours rêvé de monter une brigade de clownettes.
Je me demandais vos impressions sur le week-end jusqu'à présent.
Yes. Ah ouais.
Parce que vous étiez, enfin, dans la ville, là, vous étiez assez présente et tout. Enfin, vous avez l'air d'avoir des revendications et des envies.
Moi, je trouve que c'est un très joli point de départ. Vraiment. Et je suis très contente d'être venue pour regonfler un peu les voiles de la lutte ici. Et je trouve ça très beau qu'on arrive à... malgré, je pense, une très forte envie collective d'aller plus loin, d'être capable de dire « Ok, bah on respecte en fait les quelques personnes, même si elles sont minoritaires, qui ont besoin en fait de prendre soin ou d'être prises, d'être un peu couinées comme ça. » J'ai trouvé ça hyper beau. Et en fait, pour moi, ça fait vachement sens dans une lutte féministe de dire « En fait, on va pas faire les gros bourrins. » Enfin, trop de fois, on dit, mais vas-y, on y va quand même, et tant pis si tu chiales, quoi. Et là, ben non, c'était ok. En fait, il y a des sensibilités à respecter et on les respecte. Et je trouve que ça, c'est porteur d'espoir en fait.
Vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel et on vient d'écouter des extraits d'un reportage de Radio Parleur sur la marche écoféministe de Bure qui avait lieu en septembre 2019. Vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site radioparleur.net.